De stagflation. Anissa El Jabri, Moscou, RFI.
RFI, il est 9h10 ici à Paris, une heure de moins en temps universel.
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible. Je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Partir en Iran fin 2022, alors que le régime réprime férocement les manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini, c'est le choix de François-Henri Désérable, désireux de mettre ses pas dans ceux de l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier, auteur de L'usage du monde. Désireux aussi de voir ce qui a changé, ou pas, dans ce pays depuis 1953. En effet, si l'accueil et l'hospitalité des Iraniens sont restés les mêmes, le pays entier et ses habitants sont sous la surveillance des religieux qui imposent leurs lois liberticides. Pourtant, traversant le pays du nord au sud, l'auteur va rencontrer des femmes et des hommes courageux et prêts à tout pour défendre leur droit de vivre enfin libre. C'est ce récit de voyage, intitulé « L'usure d'un monde » et publié chez Gallimard en 2023, dont nous allons vous lire des extraits.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای
Dans cet avion pour Téhéran, je n'emmenais pas large. Hormis l'équipage, j'étais le seul étranger. Ce qui m'attendrait à l'arrivée, je n'en savais rien. Même si j'avais fini par l'obtenir, ce visa, la probabilité qu'on me refoule à la frontière n'était pas négligeable. Et je me voyais déjà dans le premier vol pour Paris. J'essayais de ne pas y penser. Et moi qui, dans l'avion, ne parviens jamais à fermer l'œil, je me réveillais 20 minutes avant l'atterrissage. À ma gauche, un homme réglait sa montre. Il était 2h30 de plus à Téhéran. À ma droite, une femme se couvrait les cheveux. Nous étions entrés dans l'espace aérien iranien. À la réception de l'auberge, je fus accueilli par une jeune fille au hijab indocile qui lui couvrait seulement la moitié des cheveux. Elle photocopia mon passeport et me remit la clé de ma chambre. J'y posai mon sac et défis mes affaires. J'avais faim. Dans le hall d'entrée, qui faisait office de salle à manger, un jeune type, 25 ans à tout casser, s'envoyait une platée de spaghettis bolognaise. Est-ce qu'il m'avait vu lorgner sur son assiette? Il n'en avait pas mangé la moitié et me proposa de finir. Je refusai, il insista. « Ce qui est à moi est à toi », me dit-il. Il s'appelait Sayed. Non seulement Sayed partageait avec moi sa pitance, mais il était à mon égard d'une curiosité insatiable. De quel pays étais-je et qu'étais-je venu faire en Iran et par quelle ville allais-je passer et combien de temps comptais-je y rester? Je reconnaissais bien là cette disposition de cœur et d'esprit que l'on prête aux Iraniens, toujours désireux, en hôte attentionné, d'en savoir davantage sur les étrangers qu'il rencontre. Puis la conversation prit un tour politique. Est-ce que j'avais entendu parler de Macha Amini ? Et les manifs ? J'avais eu vent des manifs ? Qu'en pensaient les Français ? Lui était descendu dans la rue et continuerait à le faire. Ce régime devait tomber coûte que coûte. Pendant que Sayed apprenait à me connaître, la jeune fille de la réception, celle qui un peu plus tôt m'avait remis la clé de ma chambre, me lançait des regards d'abord furtifs, puis de plus en plus appuyés, si bien que j'en étais mal à l'aise. Je me sentais observé. Ma petite expérience de la vie, couplée à ma connaissance de l'amour et des mécanismes de la séduction, ne me laissait aucun doute. Je lui plaisais. Il n'y avait qu'à voir son langage corporel, le rose qui lui montait aux joues, ses œillades qui se voulaient complices, ses gestes confus, désordonnés, ses tentatives maladroites pour attirer mon attention, un stylo qu'elle fit tomber volontairement, et la façon qu'elle avait de prendre le moindre prétexte pour passer devant notre table, une première fois pour l'essuyer, une deuxième pour nous demander si tout allait bien, si nous voulions quelque chose, une bouteille d'eau, un coca, un truc comme ça. Vraiment, aucun doute. Elle avait dû s'éprendre de moi tout à l'heure, elle avait dû avoir un coup de foudre. Il n'y avait pas d'autre mot. J'en eus la confirmation quand, profitant d'un bref instant où je me trouvais seul, mon interlocuteur étant parti pisser, elle se rua vers moi pour me glisser dans la main une feuille de papier pliée en deux, sur laquelle, d'une écriture tremblante, avec une audace qui l'étonnait elle-même, une impudence dont elle était peu coutumière, elle avait dû me déclarer sa flamme. Comme Sayed revenait des toilettes, elle retourna aussitôt à la réception, derrière son pupitre, où elle me tournait le dos maintenant, soudain absorbée par son écran d'ordinateur. Feindre l'indifférence. Là encore, technique de séduction éprouvée. Sayed reprit la conversation où nous l'avions laissée. Il voulait savoir ce que je pensais des mollahs, si j'avais prévu de manifester moi aussi. Au besoin, il pouvait me donner des contacts, etc. Son téléphone vibra. Il s'excusa, prit un instant pour consulter son message, et moi, de mon côté, j'en profitais pour déplier la missive et lire enfin ce qu'avait griffonné la jeune fille. « Beware, this guy may be government agent. » « Fais gaffe, ce type peut être un agent du gouvernement. »
Ils étaient plusieurs à faire tourner cette auberge. À leur tête, Shaïda, qui régnait sur ce royaume aux sujets éphémères. Pas besoin de lui demander son opinion, elle la portait sur elle, de longs cheveux bruns dévoilés. Depuis qu'elle avait fait tomber le hijab, son oncle la traitait de Doctare Sabok, fille légère. Le terme m'était familier. Quelques mois plus tôt, j'avais rencontré Suzanne, française de parents iraniens, avocate et auteure d'un roman sur son pays d'origine. Il y a tout un champ lexical en farsi, m'avait-elle expliqué, pour déprécier la femme libre. Une fille qui couche à droite à gauche, les Iraniens la qualifient de carab, abîmée, défectueuse. Un jouet cassé est un jouet carab. Un fruit pourri est un fruit carab. Avarié, inapte à la consommation. Ce qui est carab, on s'en débarrasse et on le jette. Le meilleur compliment qu'une fille puisse espérer, c'est qu'on dise à son propos « Aftab, matab, nadidatesh ». Ni les rayons du soleil, ni ceux de la lune ne l'ont jamais aperçu. Celles-là, on peut les épouser, à condition qu'elles aient moins de 30 ans. 30 ans, c'est l'âge fatidique, l'âge couperet. Après, une fille devient torchidée. Torchidée, c'est l'aigreur du lait qui a tourné, la saveur douteuse d'un plat périmé. Shaïda avait 29 ans. Pas de mec. Pas l'intention d'en avoir. Les mecs, ça n'était pas son truc. Manière de dire à demi-mot qu'elle leur préférait les filles. Ce qui est assez emmerdant quand on vit dans un pays où l'homosexualité est considérée comme un crime. Où sont punis de 100 coups de fouet deux femmes qui se tiennent nues l'une sur l'autre sans aucune nécessité et qui ne sont pas unies par des liens familiaux. Et même de mort à la troisième récidive. Qu'on la dise torchidée, Shaïda s'en foutait comme de son premier voile. C'était ce régime qui était périmé. À propos du régime, revoici Saïed. 5 jours qu'il était ici. Personne ne savait qui il était. Personne ne savait ce qu'il faisait. Il prétendait être étudiant. Où, en quoi, si l'on voulait en savoir davantage, il éludait. On savait seulement qu'il était iranien, qu'il avait pris un lit en dortoir, ne sortait quasiment jamais de l'auberge, partageait volontiers ses spaghettis bolognaises et s'enquérait de votre personne avec un zèle infatigable. Il passait son temps sur son téléphone, dans la cuisine ou dans la cour, ou bien assis sur le banc de la salle à manger, à prêter l'oreille aux conversations des uns et des autres, à noter les allées et venues de chacun, à poser des questions à tout le monde. Pour Shaïda, pas l'ombre d'un doute. S'il se hasardait à médire du guide suprême et des mollahs, de la République islamique et de tout ce merdier, c'était uniquement pour gagner la confiance des bavards imprudents. Non, vraiment, aucun doute. Ce type, il faisait partie du Basij. Méfie-toi de lui, m'alerta Shaïda. C'est un Basidji. Un putain de Basidji.
Téhéran, dans la rue. La plupart des articles sur les soulèvements qui avaient lieu depuis la mort de Mahsa Amini soulignaient que la peur avait changé de camp. Rien n'était plus faux. Elle avait peut-être gagné le camp d'en face. Elle avait peut-être atteint le régime des mollahs, peut-être même que l'ayatollah Khamenei était pris de peur à la nuit tombée, quand il se glissait sous ses draps pendant que les rues du pays s'embrasaient. Mais la peur, on a beau dire, n'avait pas changé de camp. Depuis 43 ans, et même bien davantage, la peur était pour le peuple iranien une compagne de chaque instant, la moitié fidèle d'une vie. Les Iraniens vivaient avec dans la bouche le goût sablonneux de la peur. Seulement depuis la mort de Mahsa Amini, la peur était mise en sourdine. Elle s'effaçait au profit du courage. Courage de faire la guerre à un régime qu'il vomissait. Car c'est bien d'une guerre qu'il s'agissait. Une guerre d'usure, asymétrique, avec d'un côté ceux qui avaient des matraques, des gaz lacrymogènes, des boucliers, des fusils mitrailleurs, ceux qui pratiquaient les détentions arbitraires, les jugements expéditifs et les pendaisons à l'aube, et de l'autre ceux qui n'avaient que leur voix. Comment fait-on la révolution quand on n'a que sa voix? On descend dans la rue. D'abord, on se demande où manifester. Il n'y a pas de consigne officielle, pas d'itinéraire prédéfini, pas de déclaration préalable en préfecture. L'idée, c'est de trouver un endroit avec assez de monde pour que l'on puisse vous entendre et assez de rues pour décamper quand il faudra décamper. Près du bazar, par exemple. On arrive devant le bazar, mettons un jeudi parce que c'est le premier jour du week-end. D'autres manifestants sont là, eux aussi. Ils se sont passés le mot sur Telegram. Ou bien ils ont vu, inscrit sur un mur, « Jeudi, au bazar ». Ou encore, comme vous, ils se sont dit « Allons faire un tour au bazar et voyons ». On est donc devant le bazar. Et comme chaque jour, sauf le vendredi, jour de la grande prière hebdomadaire, le bazar grouille de monde. Parmi tous ces visages, comment reconnaître ceux qui sont opposés au régime? Il suffit d'ouvrir les yeux. Tout le monde, ou presque en Iran, est opposé au régime. Mais comment identifier d'un coup d'œil ceux qui sont prêts à le clamer haut et fort? Le mieux, c'est de baisser la tête et de regarder les pieds. S'ils sont chaussés de baskets, ils ont peut-être prévu de courir. Premier signe. Un petit sac à dos? Deuxième signe, il y a sûrement dedans des masques et des mouchoirs imbibés de vinaigre ou de citron qui neutralisent les effets des gaz lacrymaux. Et bien sûr, pour les femmes, le voile. Celles qui n'en portent pas, on sait dans quel camp elles se rangent. Avec deux ou trois amis, on forme donc un petit groupe et l'on voit là-bas un autre petit groupe. On y va. Et alors ce sont des regards qui se jaugent jusqu'au moment où quelqu'un se met à crier « Femme, vie, liberté !» ou « Abat le dictateur !» ou « Khamenei, assassin !» Parfois ça ne prend pas et en moins d'une minute, le silence retombe. Ou plutôt que le silence, le bruit de fond permanent de la rue, la rumeur ininterrompue du commerce. Ceux qui n'ont rien crié se regardent ou baissent les yeux et regardent leurs chaussures, confus, craintifs, honteux d'avoir épuisé leur réserve de courage. Ils ne devraient pas avoir honte. Leur silence n'est ni indifférence à l'égard des manifestants, ni approbation à l'endroit du régime. C'est de la peur. Et la peur paralyse. La peur est l'arme la plus sûre du pouvoir. Mais depuis peu, la peur, on l'a dit, se voyait damer le pion par le courage. De plus en plus souvent, au petit groupe qui se mettait à crier des slogans, s'agrégeait un autre petit groupe, puis un autre et encore un autre, et c'était déjà un attroupement. L'attroupement agglomérait d'autres hommes, d'autres femmes qui venaient scander leur colère. Et bientôt, ce n'était plus un attroupement, c'était une foule. Quand le phénomène se reproduit de ville en ville, la foule devient peuple. Ainsi se font les révolutions quand on n'a que sa voix. Chacun avait sa façon de s'opposer au régime. Il y avait ceux qui couvraient les murs de slogans, arrachaient les affiches du guide suprême et manifestaient dans les rues. Il y a ceux qui, sans manifester, venaient au soutien des manifestants, comme cette femme voilée que j'ai vue rentrer du bazar avec trois ferrares passés dans un sac. Chaque fois qu'un agent du régime coursait quelqu'un sous ses fenêtres, vraiment c'était à n'y rien comprendre, son fer tombait du balcon. Et puis, il y avait ces commerçants qui appelaient à la grève générale et baissaient le rideau. Et ces internautes qui déjouaient la censure et postaient des photos, des vidéos embarrassantes pour la République islamique. Et puis, bien sûr, en première ligne, il y avait toutes celles qui allaient et venaient dans les rues, cheveux au vent. La première que j'ai croisée sans hijab, c'était devant le ministère de l'Économie et des Finances. La deuxième, devant le palais de justice. La troisième pique-niquait sur la pelouse du parc Panzai Khordad. La quatrième, c'était dans une rue adjacente. Puis j'en ai vu deux qui se partageaient une part de pizza devant l'entrée du bazar. Puis une autre qui se recoiffait en observant son reflet dans la vitrine d'un bijoutier. À partir de la douzième, j'ai arrêté de compter. C'était presque toujours des jeunes femmes, presque toujours étudiantes ou en âge de lettres. Début novembre, à Téhéran, la moitié des filles de moins de 30 ans sortaient sans le voile. Certaines l'avaient remplacé par une casquette, un bonnet, une écharpe qui leur couvrait le bas des cheveux, mais la plupart n'avaient rien. Les agents de la police des mœurs se faisaient discrètes. Ils étaient dépassés par l'ampleur, la durée du mouvement, et semblaient avoir abandonné la partie. Et puis celles qui se dévoilaient n'étaient pas seules. Beaucoup d'hommes les y encourageaient d'un « V de la victoire ». Et des femmes en hijab les rétribuaient d'un sourire comme pour les remercier d'une audace qu'elles n'avaient pas encore eue.
Combien de temps faudra-t-il aux Iraniens pour se débarrasser de la République islamique? On peut prendre des paris. Un mois, deux mois, avant la fin de l'année? On peut se perdre en conjectures. On peut aussi être honnête et dire la vérité. Et la vérité, c'est que personne n'en sait rien. Mais chacun sait une chose. Derrière chaque personne qui meurt, battent 1000 autres cœurs. Par goût de l'aventure, par goût de l'imprévu, par peur aussi de me retrouver un jour dans un EHPAD à me demander ce que j'ai foutu de ma vie, à songer qu'en fait de vie, je me suis seulement contenté d'exister, il m'arrive de faire preuve d'une audace imprudente. Si l'on est complaisant, on pourrait la qualifier de hardiesse, sinon de connerie. Quoi qu'il en soit, ça n'est pas du courage. Mes réserves en la matière sont assez limitées. J'aimerais avoir la fermeté, la force d'âme d'un Danton qui devant l'échafaud s'adresse au bourreau, Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. Ou d'un Tristan Bernard qu'on arrête avec sa femme pour les emmener à Drancy. Jusqu'à présent, nous vivions dans l'angoisse. Désormais, nous vivrons dans l'espoir. Mais la vérité, c'est qu'en pareille circonstance, aucun mot ne sortirait de ma bouche. Et rien ne me viendrait à l'esprit qu'une irrépressible, incontrôlable envie de pleurer. Il faisait nuit maintenant. Nous marchions depuis 2 heures dans les rues autour de la place Engelab, quand Niloufar s'est arrêté et m'a dit « Attends, je vais te montrer combien l'écho est merveilleux à Téhéran. » Elle a pris une grande inspiration, a mis ses mains en cornet, et aussi fort qu'elle le pouvait, elle a crié « Marc-Bar, dictateur ! Mort au dictateur !» Pendant une seconde, pas plus, mais c'était l'une de ces secondes qui s'étirent, une seconde élastique. Je suis resté interdit, stupéfait par son audace. Et plutôt que de joindre ma voix à la sienne, de passer un bras fraternel autour d'elle, de mettre un poing en l'air et de crier à mon tour, instinctivement, presque sans réfléchir, j'ai fait un pas de côté. Je me suis tue et j'ai fait comme si je n'étais pas avec elle. La rue était presque vide. Il n'y avait que 2 hommes un peu plus loin devant la porte d'un immeuble. Pourtant, j'ai pris peur. J'ai eu peur que ces 2 hommes ne soient des agents du régime ou que des agents du régime n'arrivent en trombe sur leur moto. Peur de me faire tabasser et de me faire arrêter et de finir en prison et d'y rester pour longtemps. Cela n'a duré qu'un instant. Je ne suis même pas sûre que Niloufar s'en soit aperçu. Mais moi, cette petite lâcheté, cette démission du courage m'a fait honte. Oui, j'ai éprouvé de la honte à m'être écartée de cette fille à côté de qui un instant plus tôt je marchais, avec qui je parlais et qui, de la manière la plus éclatante, venait de me démontrer ce que c'était vraiment en avoir. Au 3e étage d'un immeuble, quelqu'un a ouvert sa fenêtre et a crié « Mort au dictateur !» Puis les 2 hommes un peu plus loin dans la rue ont crié « Mort au dictateur !» Puis une voiture qui passait a klaxonné et son chauffeur a baissé la vitre pour crier « Mort au dictateur !» Puis on a entendu des « Mort au dictateur !» qui venaient d'une rue parallèle. C'était l'écho amplifié, prolongé, répété du cri de Niloufar qui se propageait dans les rues de la ville. C'était le merveilleux écho de Téhéran. C'était la nuit, traversée d'un éclair.
Qu'attend-on d'un chauffeur de taxi dans un pays étranger ? Qu'il vous mène à bon port sans trop vous gruger ? En Iran, non seulement la plupart des taxis vous annoncent le juste prix, celui que paieraient les Iraniens, mais au moment de régler la course, ils refusent votre argent. Vous insistez, ils refusent encore. Vous leur fourrez les billets dans la main et vous les rendez aussitôt. Vous les laissez sur la banquette. Ils se récrient et vous conjurent de les reprendre pour finalement les accepter malgré eux, avec un ostensible écœurement. Mais gare à vous si vous partez sans payer. Ils vous couvriront d'injures et vous maudiront, vous et votre descendance, sur 7 générations. Vous venez de faire connaissance avec une pratique qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'en Iran, le ta'aruf, un ensemble de règles de politesse non écrites qui régissent les interactions quotidiennes. On peut tenir le ta'aruf pour la forme la plus raffinée de la courtoisie, le degré suprême de la délicatesse. On peut aussi le considérer comme un rite hypocrite, une déférence exagérée et doublée d'une générosité factice. Le ta'aruf, c'est le contraire d'appeler un chat, c'est y aller par quatre chemins. C'est un oui qui veut dire non, mais un non qui porte un nœud papillon. Exemple, vous faites la queue au guichet d'une banque. Même s'il n'a pas la moindre intention de vous céder sa place, celui qui vous devance vous invite à passer devant lui, après vous. Évidemment, il s'attend à ce que vous décliniez l'invitation, ce que vous faites aussitôt. On pourrait en rester là, mais il serait malvenu de ne pas renouveler la proposition. « Je vous en prie, je ne suis pas pressé. » Comme il serait impoli de ne pas réitérer le refus. « Que Dieu me perde si je passais devant vous !» Résultat, on s'est échangé quelques formules grandiloquentes. Chacun reste à sa place et tout le monde est content. Le problème du ta'aruf, si l'on n'est pas aguerri et maîtriser les codes du ta'aruf et l'apprentissage d'une vie entière, c'est qu'on ne sait jamais dans quelle mesure la faveur qu'on vous fait est sincère ou seulement polie. Et comme il convient de toujours la refuser une première fois, on se demande si le refus est réellement un refus ou s'il est dicté par les usages du ta'aruf. Le secret, c'est de prêter l'oreille aux subtilités de langage. Si vous arrivez quelque part, que vous n'avez pas d'hôtel, et qu'un Iranien, 5 minutes à peine après vous avoir rencontré, vous propose de venir passer la nuit chez vous, mais qu'il ajoute aussitôt « c'est petit, mais en se serrant, on a toujours de la place », ne cherchez pas, c'est du ta'aruf. Remerciez-le de l'invitation et déclinez poliment. Mais ça n'est pas toujours aussi évident. Dans le doute, refusez, ou votre interlocuteur pourrait perdre la face. Et quand un chauffeur de taxi vous jure, c'est grand Dieu, que c'est pour lui un honneur d'avoir un étranger dans sa voiture, que c'était une petite course de rien du tout, et qu'en sortant votre portefeuille, vous lui feriez une offense, laissez-le parler et payez.
Ispahan. Mon dernier jour à Ispahan, j'avais entrepris l'ascension du mont Sofet, au sud de la ville. 2200 mètres et des broutilles, de la montagne à vaches, comme on dirait chez nous, sauf qu'il n'y avait pas de vaches parce que pas d'herbe à brouter. Pas de quoi se prendre pour Sir Edmund Hillary, mais enfin, ça faisait une bonne marche. J'étais parti tôt de la place Nashkejahan pour arriver au sommet dans la lumière pulvérulente du début d'après-midi. Ispahan s'étendait à perte de vue. 2 millions d'habitants. Moi, c'est surtout de Firouzeh que je me souviendrai. 20 ans à peine, jogging violet, chaussures de rando, bâton de marche. Pas de hijab, mais une casquette, le soleil tapait. Ça faisait bien 1 heure qu'elle attendait. Quoi ? J'allais bientôt le savoir. Mais d'abord, il nous fallait faire connaissance. Firouzeh faisait des études d'ingénieur. En plus de ses cours, elle bossait 40 heures par semaine dans une auberge de jeunesse. En plus du boulot, elle apprenait l'anglais avec Friends. Elle en était à la saison 5. Pour le moment, elle cherchait encore ses mots, et quand elle les trouvait, son visage s'éclairait d'une joie juvénile. Elle avait gravi le mont Sofet pour 2 raisons. La première était taguée sur un rocher en lettres rouges. Zan Zendegi Azadi. Femme, vie, liberté. Sur les murs de la ville, ça ne tenait jamais très longtemps. En 1 heure à peine, les pasdarans arrivaient à moto avec une bombe de peinture pour recouvrir l'inscription. Au moins, ils ne viendraient pas jusqu'ici. L'autre raison, c'est qu'elle voulait tourner une vidéo. Or, elle était bien emmerdée. Son téléphone n'avait plus de batterie. Depuis tout à l'heure, elle attendait que quelqu'un se pointe avec un téléphone. Elle commençait à se décourager, et puis j'étais arrivée. Est-ce que je voulais bien enregistrer une vidéo avec le mien et la lui envoyer par mail ? Une vidéo, je demandais. Une vidéo de quoi ? De moi, dit-elle. De moi au sommet du mont Sofet, dédiant l'ascension à tous ceux qui manifestent contre ce régime corrompu. De moi, criant « Mort au dictateur !» et « Merde au mollah !» et « Femme, vie, liberté !» Et tu vas en faire quoi ? Je vais la poster sur Instagram. Protester sur les réseaux sociaux, s'indigner des exactions du régime iranien, montrer son soutien aux manifestants depuis la France. Quand on n'a ni famille ni amis en Iran, c'est